Au Canada, un bébé sur 1000 serait touché par le syndrome d'alcoolisme fœtal, et ce, chaque année. Et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. Ça reste assez méconnu. On va tenter d'en savoir davantage avec Sandra Caron. Elle est infirmière clinicienne à la Clinique de santé internationale et tuberculose au CHU Sainte-Justine. Bonjour, Sandra.
Bonjour, Marianne.
Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que depuis tout à l'heure, Jennifer parle de vous. elle dit que vous l'aidez presque à élever à l'amie. Vous êtes le bras gauche, le bras droit aussi du docteur Jean-François Chicoine. Vous travaillez étroitement avec lui à cette clinique-là pour aider des parents, entre autres, qui vivent avec des enfants qui ont le SAF. Comment on diagnostique, Sandra, le SAF? Parce que, puisque c'est assez sous-documenté, est-ce que le diagnostic est plus complexe?
Le diagnostic du SAF, ou plutôt de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, donc ça regroupe et le SAF et le EAF, donc les effets de l'alcool sur le fœtus, c'est diagnostique à n'importe quel âge de l'enfant. Donc c'est certain que si on a une histoire de consommation d'alcool chez la mère biologique, ça aide là, au diagnostic. Par contre, c'est pas toujours le cas. On n'a pas toujours les parents biologiques ou c'est pas toujours documenté non plus.
Ouais.
Donc, c'est un diagnostic qui est pas évident à faire, qui est probablement sous-diagnostiqué également. Donc, c'est environ 1 à 4 % des naissances là, selon les populations, selon les données au Canada. Ce qui est à peu près le même taux là, que l'autisme. Là.
OK, quand même. Hein,
environ.
Mais,
là,
et pourtant, on en parle tellement moins et ça semble tellement moins clair. Est-ce qu'il y a des symptômes qui reviennent de façon assez évidente pour déterminer le SAF?
C'est des enfants. En fait, en bas âge, les enfants qui ont le syndrome d'alcoolisation fœtale, donc le SAF pur, ont des stigmates faciaux. Donc, ils vont avoir...
les yeux bridés un petit peu?
Oui, les yeux un petit peu bridés, le pont nasal un peu bas, un petit menton, l'absence de philtrum, qui est la petite ligne qu'on a sous le nez, qui relie le bas de notre nez jusqu'à la lèvre. Habituellement, c'est un peu creusé. Les enfants avec un SAF, ça va être plutôt plat, donc une espèce d'impression de bec un peu de canard quand on les regarde de profil. Des yeux, on l'a dit déjà, bridés. Donc, un ou plusieurs de ces symptômes-là, de ces stigmates faciaux-là, vont être présents. Et ça, c'est plus visible entre 18 mois et 4 ans. Après ça, la croissance fait que ça devient un peu plus subtil, un peu moins visible. Sinon, en bas âge, les enfants... bon, qui peuvent avoir des difficultés de succion là à la naissance, des enfants qui vont être petits aussi, un retard de croissance sous le 10e percentile, là, autant pour le poids que la taille, et il peut avoir des anomalies de structure du cerveau chez le vrai SAF, visible là, à l'imagerie médicale. Il peut avoir un retard de développement. Donc, l'enfant va faire un petit peu tout, mais... va faire tout, en fait, mais un peu plus tard. Donc, va marcher plus tard, va ramper plus tard, va parler plus tard. Donc, tout ça va être un peu décalé. Un peu plus, en fait, nettement plus d'hyperactivité. L'attention est difficile également. Donc, le fameux TDAH, qui, dans ce cas-ci, va être causé là, vraiment par l'alcool qui a atteint le cerveau pendant la grossesse. Pas beaucoup de jugement. Donc, le jugement autant par rapport à autrui que par rapport dans ses décisions pour sa sécurité, par exemple. Ils peuvent être des fois un petit peu plus agressifs, mais par difficulté à décoder le monde qui les entoure. Donc, c'est pas de l'agressivité pure, c'est pas des troubles de comportement, mais c'est vraiment relié à leur difficulté à percevoir les signaux que les autres leur envoient. Donc, la distance sociale, ça, c'est un concept qui est difficile à comprendre.
Je vous arrête ici, Sandra.
Oui.
Jennifer me disait quelque chose que je trouvais tellement révélateur. Et ça m'a bien marqué, Jennifer, lorsque vous m'avez dit que Adami, pendant longtemps, pendant plusieurs années, avait pas de désir. Vous lui disiez « Qu'est-ce que tu veux pour Noël? » Et il répondait « Des fraises. » Est-ce que...
N'importe quoi qu'il voyait. Ce qui était devant lui, c'était juste des choses il pouvait pas l'imaginer qu'est-ce qu'il voulait. Il me disait du travail, parce qu'il aime travailler avec moi à la maison. Il aime faire des tâches ménagères, lui, il appelle ça du travail.
Ouais. Donc, c'est ça, cette difficulté un peu de reconnaître les besoins, de reconnaître, ça fait probablement partie du jugement dont vous parliez,
ça
Sandra.
Ça fait partie du jugement, oui. Ça fait aussi partie de la difficulté aux enfants qui sont atteints de EAF ou SAF à percevoir ce qui est abstrait. Ça, c'est extrêmement difficile. Donc, quand c'est pas concret, quand ils ne le voient pas, ils ne sont pas capables de l'imaginer. Donc, il faut vraiment que tout soit extrêmement logique, visible, tangible. Donc, ils vont fonctionner beaucoup mieux avec une routine, premièrement, ça c'est certain, mais avec des pictogrammes, combiner les apprentissages avec des matières, la musique, etc. Mm-hmm. Ça les aide énormément.
Jennifer a mis en place des stratégies qu'elle connaît, qu'elle avait déjà elle-même dans son quotidien. Je parle ici de yoga, de méditation. Est-ce qu'il y a d'autres types de stratégies qui peuvent aider un enfant qui vit avec ce syndrome-là à peut-être renverser les impacts ou ses retards?
Les renverser, ça serait difficile, mais pallier et apprendre à vivre avec, ça oui, c'est possible. Donc, une fois qu'on le sait que l'enfant a ce syndrome-là ou ces effets-là sur le cerveau, déjà, on a une bonne partie du travail de fait. C'est beaucoup plus clair une fois qu'on sait que c'est ça et que qu'est-ce que ça va donner. Tout le monde va mieux comprendre, et les intervenants et les parents, et le milieu scolaire aussi. Donc, une approche qui est multisensorielle et multidisciplinaire. On se doit de travailler en équipe, autant les intervenants scolaires, les CPE, que le milieu médical aussi, les parents. Tout le monde va travailler dans le même sens, en se partageant nos trucs aussi. L'ergothérapie et l'orthophonie sont extrêmement importants. C'est probablement les deux professionnels qui doivent être les plus importants dans la vie de ces enfants-là pour aider au niveau du langage, parce qu'il peut avoir des difficultés au niveau du langage, et tout ce qui est sensoriel. Donc, des enfants qui peuvent soit rechercher beaucoup les stimulations sensorielles ou au contraire, ou les deux des fois, être beaucoup plus sensibles aux stimulations sensorielles. Donc, marcher dans le gazon, les pieds nus, ça peut être difficile, réagir fortement aux gros bruits ou au contraire, des enfants qui vont se balancer au parc de façon exagérée.
En recherchant cette sensation-là.
Exactement.
Jennifer, l'impact de la méditation, du yoga, concrètement, sur Adami, ça a donné quoi?
Je l'ai jamais imposé à Dami. C'est que moi, il me voyait pratiquer. Puis j'ai surtout commencé avec... j'ai remarqué quand il a commencé l'école, tu sais, on avait un horaire fixe. Moi, j'ai laissé Adami dormir.
Ouais.
Puis même à la garderie, on arrivait vers 10h30, 11h.
Ouais.
Mais quand il a commencé la maternelle, on devait être là pour 7h50, 2. Alors, j'ai comme mis en place... j'ai commencé à me réveiller plus tôt. Je me réveille à 5h30 au lieu de mettons, 6h pour mettre en place un réveil doux à Dami en le massant des orteils, en nommant chaque partie du corps, en respirant. Ça a commencé comme ça. Et puis, en jouant juste 2 minutes au soccer, au handball, avant de partir pour l'école, c'est une manière pour moi et pour lui de juste sortir.
De se préparer.
De se préparer, de juste s'amuser, prendre ça comme se réveiller doucement, respirer. Puis là, c'est maintenant que quand il se réveille le matin, il voit que je médite, il va venir s'asseoir à côté de moi. Puis il est vraiment bon en yoga.
On revient avec le modèle. Il reste peu de temps à cette entrevue, Sandra Caron, et je veux que l'on parle rapidement de la médication. Est-ce que ça existe pour aider l'enfant qui vit avec un SAF?
Ça existe, certains médicaments, pas nécessairement pour aller directement sur le SAF, parce que ça, c'est imprégné dans son cerveau. On ne peut plus rien faire pour ça exactement. Mais étant donné que ce sont des enfants qui vont avoir une attention plus déficiente et de l'hyperactivité aussi, on peut aller vers des psychostimulants pour comme un enfant qui aurait un TDAH, pour aller stimuler la partie du cerveau qui s'occupe de l'attention.
Oui.
Donc ça, ça peut aider. Et aussi, parfois on prescrit un médicament qui s'appelle de l'intunive ou la guanfacine, qui est un médicament qui, à la base, l'indication, c'est pour le déficit d'attention, donc pour améliorer l'attention avec l'aide de psychostimulants aussi. J'ai des enfants pour qui le contrôle n'est pas optimal, mais on peut aussi l'utiliser pour ce qu'on appelle l'autorégulation. Donc, être capable de se parler, être capable de se calmer avant de faire une crise, ça aide un peu l'enfant à décoder un peu plus les signaux qu'il reçoit de son environnement et à être plus capable de s'autoréguler, finalement.
C'est Sandra, on aurait aimé continuer à parler avec vous vraiment longtemps parce que je sais que Jennifer, en ce moment, elle vit ce grand questionnement-là, à savoir est-ce qu'on offre des médications à Adami ou pas. Je pense que vous vous connaissez bien, donc on va vous laisser jaser ça ensemble. Ça a été un grand plaisir de vous parler. Vous saluerez Dr Chikwan pour nous. Sandra Caron, vous êtes infirmière clinicienne clinique à la Clinique de santé internationale et tuberculose du CHU Sainte-Justine. Ça a vraiment été un plaisir et vous avez été très éclairante pour nous.
Ça m'a fait plaisir.
Merci.
Bye bye.
Au revoir.